عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
Dans mon sermon de la semaine dernière, au tout début, j'avais cité le Messie promis alayhi salam. J'ai cité cet extrait des dires du Messie promis alayhi salam pour expliquer le sens de la prière, comment recevoir la tranquillité et le réconfort grâce à la prière, quelle est la philosophie de la prière et comment implorer Dieu. C'est-à-dire, quelle est la norme à suivre lorsqu'on supplie Dieu en tant que croyant. En fait, c'est le Saint-Coran qui nous explique l'esprit et la philosophie de la prière. Et le Messie premier, alayhi salam, nous a expliqué cela en détail en étant guidé par Dieu. À cet effet, aujourd'hui, je vais présenter d'autres dires du Messie promis alayhi salam. Je vais présenter ces dires du Messie promis alayhi salam, qui sont très brefs. Ces propos sont très brefs, mais grâce à cela, ils nous montrent comment prier. Et en suivant ces directives, l'on pourra profiter de la proximité de Dieu. Et l'on connaîtra la réalité de la prière. Dans une de ces rencontres, le Messie premier Islam a déclaré: pour que les prières soient exaucées, il est important de se réformer. Il faut apporter en soi des changements purs. Si l'homme ne peut éviter le vice et s'il outrepasse les limites fixées par Allah, eh bien, ses prières n'auront pas d'effet. Ensuite, le Messie premier Islam a déclaré: pour établir la relation avec Allah, on a besoin d'un détachement complet. J'ai demandé à plusieurs reprises aux membres de ma jamaat de se maintenir sur cette voie. Car tant que l'on ne se coupe pas de ce monde, tant que l'on n'a pas refroidi son amour pour ce bas monde, tant qu'il n'y a pas cette ardeur pour Dieu dans sa nature, et tant que l'on ne se tourne pas vers Dieu, l'on n'aura pas cette constance. C'est-à-dire, c'est cette ardeur naturelle qui maintient la relation entre l'homme et Dieu et qui renforce cette relation. Ainsi, il est important de maintenir cette ardeur naturelle. Il faut se tourner vers Dieu et nous devons maintenir cette ardeur naturelle. Cette ardeur naturelle viendra par la grâce de Dieu en implorant Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: quand l'on se consacre de toute son âme à la prière en se tournant vers Dieu, c'est là que ses prières auront de l'effet, un effet extraordinaire. Que l'on se souvienne que l'exaucement des prières vient de la part de Dieu. Il y a un temps spécifique pour la prière, tout comme le matin à une heure particulière. Ce moment de la matinée est particulier. Ce moment, on ne la trouve pas à d'autres moments. De même, il y a des moments spécifiques, des moments propices à son exaucement. Il y a des moments où ses prières auront de l'effet. La tâche que l'on accomplit tôt le matin, quand on est frais et dispo, porte de meilleurs résultats. Il ne faut pas être à l'instar des gens d'aujourd'hui qui passent la nuit devant la télé ou sur Internet, ou qui regardent la télé ou sont devant Internet jusqu'à tard dans la nuit, ou qui passent leur temps à faire autre chose, et le matin leur sommeil n'est pas complet. Ils n'ont pas dormi très bien la nuit, et le matin, en sommeil, comment est-ce qu'ils vont prier? Il n'y aura pas de bénédiction dans les autres œuvres que l'on va accomplir dans cet état. Toute personne qui veut avoir du succès, même celui qui se consacre entièrement à ce bas monde, essaye de travailler quand il est frais et dispo. Il agit ainsi afin de donner de son mieux, afin de se concentrer et afin que cette tâche puisse porter ses fruits. Ainsi dit le Messie premier, alayhissalam, nous devons chercher les moments propices pour prier. Il faut chercher ces moments, il faut chercher ces états grâce auxquels les prières seront exaucées. Ensuite, le Messie premier a déclaré: la miséricorde d'Allah soit sur celui qui craint Dieu lorsqu'il est en paix, tout comme il craint Dieu quand frappent les malheurs. Celui qui n'oublie pas Dieu quand il est en paix, Dieu ne l'oublie pas lorsqu'il se trouve en difficulté. Celui qui s'amuse lorsqu'il est en paix et qui commence à prier uniquement quand frappent les malheurs, eh bien, ses prières ne seront pas exaucées. Ses prières ne seront pas exaucées, car quand frappe le châtiment de Dieu, la porte du pardon se ferme. Chanceux est celui qui, avant que frappe le châtiment de Dieu, se consacre à la prière et qui fait de l'aumône, et qui essaye de suivre les commandements de Dieu. Il essaye de suivre les commandements de Dieu, et il respecte les commandements de Dieu, et il est gracieux envers la création d'Allah. Il embellit ses actions. Voilà les signes de ceux qui sont chanceux. L'on reconnaît un arbre grâce à ses fruits. De même, il est facile de distinguer le vertueux du vicieux. C'est-à-dire, les actions de la personne vertueuse ressemblent à ce fruit qui est délicieux. Tous ceux qui y goûtent disent que c'est un arbre dont les fruits sont succulents. Le vicieux est celui qui n'accomplit pas ses devoirs envers Dieu. Il n'accomplit pas non plus ses devoirs envers les créatures de Dieu. Il est à l'instar de cet arbre dont les fruits sont amers et nauséabonds. Voilà donc quelques écrits du Messie premier Salam que je voulais présenter. J'ai présenté cela afin que nous puissions comprendre comment établir notre relation avec Dieu, afin que nous puissions connaître la méthode à suivre pour prier, et afin que nous puissions nous réformer, et afin que nous puissions aussi faire la distinction entre le bien et le mal, et afin que nous puissions adopter la meilleure méthode pour accomplir de bonnes œuvres, afin que nous puissions comprendre quelle est la méthode à suivre pour prier, et afin que nous soyons de ceux qui profitent des biens de ce bas monde et des biens de l'au-delà. Et afin de mériter les faveurs divines pour nos avantages personnels et pour nos avantages communautaires. Ainsi, c'est un sujet très important pour tout musulman. Pour tout musulman qui a accepté le Messie, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman qui a eu la chance d'accepter ce Messie, l'imam de l'époque, et qui a eu la chance de lui prêter allégeance. Il est important pour cette personne de comprendre ce sujet et de traduire cela dans la pratique, afin qu'il y ait cette distinction claire entre le véritable croyant et celui qui se contente de faire ses déclarations qu'il est un croyant, afin qu'il soit clair et net qui est un véritable croyant et qui se contente de faire des déclarations qu'il est un croyant. Le Saint-Coran, dans plusieurs versets, a évoqué le sujet de la prière. Et nous devons essayer de comprendre ce sujet. Et pour cela, nous devons regarder à travers les yeux du Messie promis, alayhi salam. Il est important de regarder à travers les yeux du Messie promis, alayhi salam, afin que nous puissions comprendre la sagesse, la philosophie de la prière, et afin que nous puissions suivre la méthode la plus efficace pour prier, et afin que nous puissions nous consacrer davantage à la prière. Non seulement que nous puissions nous consacrer à la prière, mais que nous puissions prier et faire des prières qui vont porter des fruits, que nous puissions faire de telles prières qui vont porter des résultats. Sinon, sans cela, la vie n'aura pas de but. Ces prières effectives sont importantes pour embellir sa vie. Dieu n'a pas besoin de ses prières et de ses supplications. Il n'a pas besoin que nous le supplions ou pas. Il n'a pas besoin qu'on lui demande quelque chose ou pas. Ces prières qui apportent des résultats, ces prières, nous en avons besoin, nous. Dieu n'a pas besoin de telles prières. Dieu, quant à lui, il est indépendant. C'est pour cela qu'il a dit au saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, d'annoncer. Il lui a dit d'annoncer « Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum » C'est-à-dire « Et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur, ne tiendrait aucun compte de vous. » À ce sujet, le Messie promis à l'Islam déclare « L'adorateur parfait est celui qui accorde des avantages aux autres. » Mais dans ce verset, l'on comprend un autre point. Il y a un point de plus dans ce verset. Il est dit, « Dis, si vous n'implorez pas mon Seigneur, eh bien, il ne se souciera pas de vous. » Ou en d'autres termes, cela veut dire que Dieu se soucie de ceux qui l'adorent. Dieu se soucie de ceux qui l'adorent. Ainsi, si l'on veut établir cette relation avec Dieu, si l'on veut que ses désirs soient accomplis, et si l'on veut voir l'échec de l'ennemi, eh bien, nous devons être des adorateurs de Dieu. Nous devons faire des efforts en ce sens, nous devons essayer d'être de vrais adorateurs. Qu'Allah fasse naître en nous cet esprit, qu'Allah fasse naître en nous cet état, afin que nous puissions voir la mauvaise fin de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a ces ennemis, ces personnes dont les cœurs sont emplis d'inimitié, d'hostilité et de haine à l'égard du Messie promis, alayhi salam. Leurs cœurs sont emplis de cette hostilité, de cette inimitié et de cette haine. Et cela a atteint son comble, en particulier au Pakistan et dans certaines régions de l'Inde, ou dans certains pays d'Afrique qui sont sous leur influence dans de petits villages, ici et là. Ces personnes sont prêtes à commettre toute action des plus ignobles. En tête de liste, il y a les mollahs du Pakistan, les soi-disant érudits de là-bas. Ils profitent de chaque occasion pour commettre des actions des plus infâmes à l'égard du Messie promis, alayhi salam. Ils cherchent tout le temps l'occasion pour meurtrir les cœurs des Ahmadis. Les Ahmadis éprouvent de l'amour pour le Messie promis, alayhi salam, et ils lui sont fidèles, tout simplement parce que le Messie promis, alayhi salam, est celui qui aimait le plus le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le crime commis par les Ahmadis. Les Ahmadis sont fidèles au Messie promis, alayhi salam, et il éprouve de l'amour pour lui, tout simplement parce que c'est le Messie premier l'Islam qui a fait naître en nous, les Ahmadis, un amour véritable pour le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Nous éprouvons cet amour pour le Messie premier l'Islam, tout simplement parce que c'est lui qui nous a fait connaître ce que c'est que l'unicité de Dieu. Quant à ces personnes qui, par animosité à l'égard du Messie promis, alayhi salam, sont en train d'outrepasser les limites, eh bien, ces personnes sont en train de s'opposer à l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils s'opposent à celui qui est venu appeler les gens vers l'unicité de Dieu. Ces personnes sont en train de s'opposer à celui qui est soutenu par Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam, Dieu soutient celui qui l'adore. Et à notre époque, il n'y a pas plus grand adorateur de Dieu que le Messie premier alayhi salam. Dans le passé, nous avons vu la fin de ses ennemis. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat. Au Pakistan, il y a eu plusieurs incidents de ce genre. Nous voyons aujourd'hui aussi de tels incidents, à savoir comment Dieu a attrapé ceux qui profèrent ces injures. Et certainement, cela a été une leçon pour nombre de personnes. Cela doit être une leçon pour nombre de personnes. Au Pakistan, ceux qui ont des yeux pour voir pourront voir cela. Pour certaines raisons, je ne vais pas citer les noms de ces régions où il y a eu de tels incidents, là où ces infâmes ont proféré ces insultes et comment ils ont été attrapés par Dieu par la suite. Ces infâmes, il en existe de tout type. Certains se posent en personnes vertueuses, mais par la suite, ces mêmes personnes ont été attrapées pour des crimes par leurs propres suivants. Leurs suivants les ont attrapés pour des crimes, eux qui étaient considérés auparavant comme de grands sages, et leurs suivants les ont humiliés et les ont chassés de leur région. Dans d'autres cas, Dieu a humilié certaines de ces personnes de diverses manières. Et en humiliant ces personnes, Dieu a aussi avili leurs suivants et a renforcé la foi des Ahmadis. Certaines de ces personnes qui ont injurié le Messie premier l'Islam ont commis par la suite des actes des plus infâmes. Les gens m'ont été informés dans leur courrier. Il y a des articles à ce sujet dans les journaux. Ce sont des actes si ignobles que je ne peux pas en faire mention ici. Je ne peux pas faire mention de l'ignominie de leurs actes et de la bassesse de leurs pensées. Et ces personnes sont hostiles envers l'imam de l'époque. La majorité de la population est soit insensible. Je parle ici du Pakistan. Ils sont soit insensibles, soit ils sont peureux. Cela se passe aussi en Inde. En voyant tout cela, ces personnes n'en tirent pas leçon. À savoir que ces soi-disant serviteurs de l'islam sont ainsi humiliés parce qu'ils sont en train de s'opposer à l'envoyé de Dieu. Si ces personnes réfléchissaient, eh bien, elles auraient compris cela, sera aurait servi de leçon pour elles. Comme je l'ai dit, on trouve cette inimitié ailleurs, par exemple en Afrique. Cette hostilité existe aussi là-bas, mais quand les musulmans de là-bas voient les actions infâmes de leurs ulémas, ils se tournent davantage vers l'Ahmadiyya. Dans nombre de régions d'Afrique, l'Ahmadiyya s'est répandue parce que ces gens ont vu l'état de leurs ulémas et parce que ces personnes ont reconnu la vraie foi. Ces personnes ont ce courage. Ces personnes ont le courage de tirer des leçons des actes de leurs soi-disant ulémas et de chercher la vérité. En tout cas, je m'adresse aux Ahmadis et je leur dis de ne pas se soucier des actes infâmes de leurs ennemis. Quelques jours auparavant, un Ahmadi du Pakistan m'a écrit pour m'informer que dans sa région, l'hostilité à l'égard du Messie premier l'Islam a atteint son comble et l'ennemi est sans vergogne. L'ennemi est là pour commettre tout acte infâme. Ils ont défiguré la photo du Messie premier l'Islam. Ils commettent d'autres actes infâmes avec cette photo afin de blesser nos cœurs. Nous ne pouvons plus endurer toutes ces bassesses. On dirait que nos cœurs vont éclater. Ils placent sur des murs des affiches des plus offensantes. Ces affiches sont si offensantes que même des non-Ahmadis nobles de caractère ont fait enlever ces affiches de leurs murs, car cela a atteint son comble. Cet Ahmadi m'a dit qu'en voyant tout cela, on ne peut que pleurer. J'ai dit à cet Ahmadi de faire preuve de patience. À la leçon que nous a donnée le Messie premier l'Islam est que lorsque l'ennemi excède en clameur et se déchaîne, eh bien nous devons trouver refuge à notre ami caché. Voilà la leçon que nous devons avoir en tête. Plus qu'auparavant, l'on doit se consacrer davantage aux prières. On doit faire grandir sa relation avec Dieu. On doit se perdre complètement en Dieu. Ceux qui commettent ces infamies sont en train d'inviter leur mort. Ceux qui outragent ainsi les envoyés de Dieu ont toujours été détruits. Si ces personnes ne cessent de commettre leurs infamies, eh bien, l'épée de la prière va les trancher, tout comme l'épée de la prière avait tranché les crâmes. Cela va se faire avec la permission de Dieu. Ainsi, votre douleur, votre souffrance, vos supplications, vous devez les présenter à Dieu. Qu'Allah fasse que ces personnes outrageantes soient le signe de sa colère. Lors d'une rencontre en avril 1904, le Messie premier l'Islam a déclaré « J'étais en train de prier pour ma Jamaat et pour Qadian quand j'ai reçu en révélation ceci. » Il est dit « Ils se sont écartés de la mode de la vie d'ici-bas. » Et le Messie promis l'Islam a déclaré que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on m'a attribué le fait qu'il soit anéanti, et c'est là que mon regard est tombé sur cette prière qui était écrite dans la bête de doigt depuis un an. Cette prière était Ya Rabbi Fasmar Duaï, Wa Mazik A'daika Wa A'dai, Wa Anjiz Wa'daka, Wa Ansur Abdaka, Wa Arina Ayyamaka, Wa Shahir Lana Husamaka, Wa La Tazar Minal Kafirina Sharira. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, écoute ma prière et anéantis ton ennemi et mon ennemi et complète ta promesse et aide tes serviteurs et montre-nous ces jours qui sont les tiens et prends pour nous ton épée et ne laisse pas un seul parmi ceux qui te renient. Il y a un nombre de ces personnes qui renient Dieu, mais parmi ceux-là, il y a ceux qui ont poussé à leur extrême leur inimitié. Cette prière est pour ces personnes. Le Messie, premier salam, déclare que, en lisant cette prière et en voyant cette révélation, j'ai compris que ce fut le moment de l'exaucement de mes prières. Ensuite, il a déclaré que la sunna de Dieu est telle qu'il écarte ceux qui sont des obstacles sur la voie de ses envoyés. Ce sont des jours de grande grâce. Et en voyant cela, je grandis dans ma foi en Dieu, comment il est en train de montrer tout cela. Et il est en train de nous montrer cela aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, la Jama'a du Messie premier l'Islam est en train d'en faire ce constat. D'une part, il y a ses insultes et ses injures, et d'autre part, il y a ses progrès. Certes, il y a des personnes dignes dans ces pays. Il y a, certes, ces personnes qui enlèvent ces affiches infâmes de leurs murs. Mais cette bonté en ces personnes est une bonté qui est muette, comme l'avait déclaré le troisième calife à son époque. Certes, il y a cette bonté, mais cette bonté est muette, elle ne parle pas. Mais il y a aussi ces intellectuels qui écrivent dans des journaux anglais et qui ont commencé à critiquer ces outrages. En tout cas, afin de protéger le pays, nous devons réciter cette prière du Messie premier l'Islam. Nous devons réciter cette prière afin que Dieu anéantisse les méchants, que ceux qui aspirent à la paix dans ce pays puissent se protéger de ces méchants et que les Ahmadis en premier soient à l'abri de ces personnes malveillantes. Tout Ahmadi, plus qu'auparavant, doit se consacrer davantage à la prière. Il doit faire preuve d'une plus grande constance. Dans différentes régions, dans différentes villes, il y a ces méchants, ces personnes malveillantes qui sont en train de fomenter des troubles contre les Ahmadis. Mais notre Seigneur est le meilleur planificateur. Certainement, il va retourner contre eux leur complot. Et il est en train de le faire. C'est lui qui, jusqu'à présent, nous a protégés de leur complot. Ainsi, nous ne devons jamais abandonner Dieu. J'ai déjà attiré l'attention de la Jamaat à ce sujet dans le passé. Je vous ai fait comprendre que vous devez faire en sorte que vos actions soient en accord au plaisir de Dieu et vous devez vous prosterner devant Dieu de manière collective et c'est là qu'après quelque temps, nous allons voir une grande révolution, Inch'Allah. Le Messie premier, alayhi salam, nous a conseillé de prier de manière constante. Il a déclaré à ce sujet que des épreuves à briser l'échine attendent le croyant au cours de la période entre sa prière et l'exaucement de sa prière. Il y a ces épreuves qui lui brisent l'échine, mais celui qui est constant dans ses prières et celui qui est de nature pieuse sentira le parfum des faveurs divines, même au cours de ses tribulations. Grâce à sa perspicacité, il apercevra qu'après ces épreuves, il aura le soutien de Dieu. Le secret de ces épreuves est de faire croître l'ardeur du suppliant, car autant que sa détresse et son désarroi seront grands, autant il s'inclinera devant Dieu. Et c'est là un des moyens pour faire en sorte que ses prières soient exaucées. Ainsi, l'on ne doit jamais s'angoisser. En raison de son impatience et de son désarroi, l'on ne doit pas avoir des doutes concernant son Seigneur. L'on ne doit jamais croire que ma prière ne sera pas exaucée. ou que les prières ne seront pas exaucées. Avoir de telles pensées signifie qu'on est en train de rejeter l'attribut de Dieu, celui qui est exauceur des prières. Dieu a l'attribut de celui qui exauce les prières. Si on commence à avoir de telles pensées, bien inconsciemment, on va rejeter cet attribut divin. Ainsi, notre tâche à nous, c'est de respecter ces conditions. Lorsque nous supplions Dieu, nous devons faire naître en nous cette constance et nous allons devoir respecter ces conditions lorsque nous allons prier. Conditions que je viens de vous présenter à la lumière des dires du Messie promis à l'Islam. Nous devons tout le temps avoir cette certitude, à savoir que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu a déclaré, à savoir, suppliez-moi, tout en respectant ces conditions. Suppliez-moi et je vais exaucer vos prières. S'il va exaucer les prières, il n'a pas raison d'être désespéré. Certes, il a fixé un temps pour l'exaucement de ses prières. Quand chaque épreuve va nous pousser à nous prosterner devant Dieu, Inch'Allah, nous allons témoigner de l'exaucement de ses prières. Je vais présenter d'autres dires du Messie promis alayhi salam. Il déclare, « Sachez qu'aucune personne ne profitera de ses prières tant qu'elle ne pousse pas à ses limites sa constance, et tant qu'elle ne prie pas avec constance. Il ne faut jamais douter de Dieu, il ne faut jamais avoir de suspicion à son égard. Il faut le considérer comme le maître de toute puissance, il faut avoir cette certitude, et il faut prier avec constance. » Un temps viendra lorsque cette prière sera exaucée, lorsqu'il répondra à cette prière. Celui qui suivra cette formule ne sera jamais malchanceux et ne sera jamais dans la privation. Certainement, cette personne aura du succès dans ses objectifs. Dieu possède une puissance incommensurable. Pour la perfection de l'homme, il a décrété que celui-ci doit faire preuve de patience jusqu'à la fin. Il ne change pas cette loi. Celui qui désire que Dieu change cette loi est coupable d'insolence envers Dieu. Que l'on se souvienne aussi du fait que certaines personnes font preuve d'impatience. Ces personnes désirent que tout se passe d'un seul coup comme par magie. Si une personne est impatiente, cela n'affectera jamais Dieu. Cette personne elle-même va subir des pertes. Soyez impatient et vous allez voir. Joseph, le fils de Jacob, s'était séparé de son père en raison de la méchanceté de ce frère, et son père a prié pour lui pendant 40 ans. S'il avait été impatient, il n'aurait pas vu le résultat de ses prières. Il n'a pas cessé de prier pendant 40 ans. Il avait confiance dans le pouvoir de Dieu. Et après 40 ans de prière, cette prière a fait sortir Joseph de là où il se trouvait. Au cours de cette période, certains ont critiqué son père en disant que ton souvenir de Joseph ne sert à rien. Mais il a répondu que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Certes, il ne savait pas grand-chose, mais il a déclaré « Inni la ajidu riha Yusufa ». Il savait très bien qu'il devrait prier pour une longue période. Et si Dieu devait le priver du résultat de ses prières, il aurait répondu rapidement ses prières. Mais le fait que cette prière a été exaucée après une longue période prouve que Dieu l'a acceptée, car celui qui est noble ne prie pas un mendiant pour une longue période. Même le plus avare ne prive pas le mendiant qui frappe à sa porte. En fin de compte, il lui donne quelque chose. Nous ne sommes pas en train de prier, nous ne ressentons pas cette détresse parce qu'on est en train de s'attaquer à nos personnes. Nous sommes victimes de ces exactions parce que nous avons accepté l'imam de l'époque. Nous sommes victimes de ces exactions parce que nous avons accepté à notre époque celui que Dieu a envoyé. Nous avons accepté son bien-aimé. Certainement, nous sommes en train d'endurer tout cela pour la cause de Dieu. Si nous faisons cela pour sa cause, certainement il va exaucer nos prières. Et il ne cesse d'exaucer les prières. Le progrès de la Jamaat Ahmadiyya est une preuve évidente que Dieu exauce nos prières et que Dieu est avec nous. Comme je l'ai dit, les machinations de l'ennemi sont très ténébreuses. Et ils le sont jusqu'à présent. Et c'est la grâce de Dieu et c'est un résultat des promesses faites au Messie premier alayhi salam que Dieu est en train de faire échouer ces machinations de l'ennemi. Il le fait afin de faire grandir notre foi en lui. Ainsi, il est en train de faire échouer les plans de l'ennemi. Cela ne se passe pas uniquement au Pakistan, mais dans différents pays du monde où il y a de l'opposition. Cette opposition n'arrête pas le progrès de la Jamaat. Quand j'étais au Parlement européen, un journaliste qui était là-bas m'a demandé combien nous sommes comparés aux autres musulmans, quelle est notre importance devant les autres musulmans. Lorsqu'il m'a posé cette question, j'ai compris que, après m'avoir demandé combien nous sommes, il va me demander que vous n'avez aucune importance dans le monde, vous êtes en train de prôner la paix dans le monde. Vous êtes en train de répandre ce message, mais vous êtes peu en nombre. Vous n'avez aucune importance face aux autres. Et c'est là que je me suis souvenu de la réponse donnée par le troisième calife, Rahimullah Ta'ala, réponse qu'il avait donnée à un autre journaliste lorsqu'il était ici en Europe. Ce journaliste lui avait posé la même question concernant le nombre d'Ahmadis. Et le troisième calife a répondu que 93 ans de cela, celui qui était seul s'est transformé en 10 millions. Faites les comptes et imaginez combien nous le serons à l'avenir. Et moi, j'ai répondu à ce journaliste que la Jamaat Ahmadiyya a été fondée 123 ans de cela et nous sommes plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Et à l'avenir, nous serons une communauté qui aura de l'influence dans le monde. J'ai répondu à sa question et je lui ai demandé si c'était cela sa question. Et il m'a dit que oui, c'était la question que j'avais en tête. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que notre influence à nous ne sera pas pour que nous puissions atteindre des objectifs mondains. Ce sera pour établir la souveraineté de Dieu sur terre. Ce sera pour répandre l'amour et la fraternité dans le monde. Ainsi, ce n'est pas la peine pour nous d'être angoissés. Nous ne devons pas nous soucier des exactions de nos adversaires. Cela ne va pas nous empêcher d'accomplir nos œuvres. Cela ne pourra pas entraver notre progrès. Dieu est en train de nous montrer ce progrès. Non seulement qu'il est en train de nous montrer ce progrès, mais il nous a décrit l'état dans l'au-delà de ceux qui commettent ces exactions à l'encontre de ses bien-aimés. Il nous a décrit leur état dans l'au-delà et par ce faire, il nous a réconfortés. Les versets que j'ai cités au tout début de mon sermon décrivent la situation de ces personnes. Il est dit « Qalu Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin » Ils diront, c'est-à-dire ceux qui l'ont renié, diront « Notre Seigneur, notre malchance, de par nos fautes, nous sont vaincus et nous étions un peuple égaré. » Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Notre Seigneur, fais-nous sortir de là, fais-nous sortir de l'enfer. Si par la suite nous retournons à la désobéissance, en vérité, nous serons des injustes. Qalarsaw fiha wa la tukallimun. Allah dira, disparaissez en enfer et ne m'adressez point la parole. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disait, notre Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc nos péchés et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui font miséricorde. Fatakhathumuhum sikhriya. Hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Mais vous les avez tournés en dérision jusqu'à ce que cela vous fasse oublier mon souvenir pendant que vous vous moquiez d'eux. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Aujourd'hui, je les ai récompensés pour leur constance du fait que ce sont eux les triomphants. Voilà la fin de ces personnes, ceux qui se sont éloignés de la mode de la vie d'ici-bas. Dans l'au-delà, ces personnes vont comprendre ce que c'est que la vérité. Et c'est là qu'ils vont dire que c'était là notre grand malheur qui nous a entourés et qui nous a poussés jusqu'ici. Ils vont dire, « Ô notre Seigneur, retourne-nous sur terre et nous serons plus désobéissants envers toi. Si nous agissons ainsi, eh bien nous serons parmi les plus injustes, les plus infâmes. » Mais Allah va dire, « Telle n'est pas ma loi. Maintenant, goûtez au prix du châtiment. Écartez-vous de moi. Vous allez finir en enfer. » Entrez-y, je ne vais pas écouter vos supplications. Moi, j'ai entendu les supplications de ceux qui accomplissaient des bonnes œuvres sur terre. J'ai entendu leurs supplications à eux et je n'ai pas entendu les supplications de ceux qui vont commettre des exactions pour me supplier ensuite dans l'au-delà. Voilà comment Dieu va traiter ces personnes qui s'opposent à ces suivants. Dieu est celui qui attend à chaque instant que son serviteur se tourne vers lui pour lui demander pardon. Il va rejeter ses supplications car le délai est expiré. Dans l'au-delà, l'on sera récompensé pour ses actions. Si vous avez commis des méfaits sur terre, si vous avez blessé les cœurs de mes serviteurs, si vous avez maltraité ceux qui se prosternaient devant moi, ceux qui voulaient établir la grandeur de la foi, vous les avez tourmentés, eux qui voulaient faire progresser mes œuvres. Vous avez essayé d'entraver leur voie. Non seulement que vous avez empêché les autres de les écouter, vous avez persécuté ces persécutions, vous avez poussé votre persécution à l'extrême, vous avez méprisé ceux qui récitaient la kalima. Vous avez joué même avec leur sang. Pourquoi demander pardon aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vais pas écouter ce que vous avez à dire. Vous allez finir en enfer. Dieu dira, aujourd'hui, ceux qui suivent mes commandements, ceux qui vont suivre celui que j'ai envoyé selon mes promesses, eh bien, ces personnes vont mériter ma miséricorde. Je vais leur accorder une place dans mon paradis. Je vais exaucer leurs prières. Je vais les traiter avec amour en raison des persécutions qu'ils ont subies sur terre. Et je vais aussi multiplier leurs récompenses ici dans l'au-delà. Et Allah dira, « Ô vous qui avez persécuté mes serviteurs, vos exactions vous ont aveuglé à tel point, votre mépris vous a aveuglé à tel point que vous avez négligé mon souvenir et vous avez oublié ce commandement. Vous avez oublié ce commandement que ceux qui blessent les cœurs des croyants en toute connaissance de cause et ceux qui les tuent finiront en enfer. » Vous avez oublié cet engagement que vous avez pris, à savoir que vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu et envers ses serviteurs. Vous avez oublié ce commandement. Puisque vous avez oublié ces préceptes de Dieu, puisque vous avez oublié le souvenir de Dieu, puisque vous avez détourné les ordres de Dieu, eh bien maintenant je n'ai aucune relation avec vous. Vous avez spolié les biens des opprimés. Vous avez incendié leurs biens. Vous avez fait mainmise sur leurs biens. Vous avez essayé de nuire à leur business. Et si vous étiez leur partenaire, eh bien, vous avez détourné leur argent. Il y a toute une liste de crimes que vous avez commis. Et maintenant, il est décrété que vous allez finir en enfer. Voilà ce que dit le Saint-Coran. Ne parlez pas de pardon, ne parlez pas de miséricorde. Et Allah dira à ceux qui croient, à ceux qui ont imploré son pardon. Il dira que certainement votre patience, votre constance et votre foi ferme et votre relation avec moi et avec mes serviteurs. En raison de cela, puisque vous êtes mes serviteurs, vous serez parmi ceux qui auront du succès. Et vous avez attiré l'amour de Dieu. Et vous avez profité de son pardon et de sa miséricorde. Voilà la distinction entre un croyant et un incroyant à la lumière de ces versets. Qu'Allah couvre nos manquements, qu'il couvre nos lacunes et qu'il nous accorde son pardon. Qu'il couvre nos manquements et nos péchés et que nous puissions prier avec constance afin que nous soyons parmi ceux qui aient du succès.